الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، بدأنا الأسبوع الماضي فصلا وهو فيما يصيب به المؤمن من صغير وكبير. La semaine passée, nous avons entamé le chapitre numéro 23. Lorsque le croyant est touché par une petite ou une grande chose, parmi les épreuves, parmi les difficultés. Et on s'est penché sur deux aspects de la réponse du croyant devant l'épreuve. Le premier, le comportement à adopter lors de l'épreuve. Et le deuxième, les paroles à prononcer lors de l'épreuve. Amma al-adab wa sabr wa al-ihtisab wa al-luju ila Allah subhanahu wa ta'ala fi kashf al-karb. Wa amma al-qawl inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fahiman ma'naha muhaqqiqan madlulaha. وعملا بمقتضاها. وصلنا إلى حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها. هكذا سأرتا كل حديث قالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم. Le hadith par lequel nous commençons est le hadith de notre mère Umm Salama, la mère des croyants, l'épouse du prophète صلى الله عليه وسلم. Elle nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Pour celui qui a ce livre, c'est à la page 117. Celui qui a ce livre, c'est à la page 117. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il n'est pas de serviteur atteint par un malheur qui dit: inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. C'est à Allah que nous appartenons et vers lui qu'est notre retour. Ô Allah, accorde-moi une récompense dans mon affliction et un meilleur remplaçant, sans qu'Allah ne le récompense dans son affliction et ne lui remplace par une chose meilleure. Umm Salama radiallahu anha ajoute: quand Abu Salama décéda, je formulai ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'ordonna de dire, et Allah le remplaça pour moi par quelqu'un de meilleur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, elle nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma min abdin, wa fi hadha umum al-fa'il. Elle dit: il n'y a pas un serviteur, et dans cela il y a la généralité de celui qui prononcera cette parole, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit âgé, qu'il soit jeune. Toute personne éprouvée qui prononcera cette parole entrera dans ce hadith. Ma min abdin tusibuhu musibatun. Il n'y a pas un serviteur qui sera touché par un malheur. Ici, le malheur a été cité de manière générale. Car musibana kira fi siyaq ash-shart fa ya'um jami' al-masa'ib. Il y a, tout comme il y a la généralité de la personne éprouvée qui prononcera cette invocation, il y a également la généralité de l'épreuve, de l'affliction et de la difficulté. Donc, c'est en concordance avec l'intitulé du chapitre. Que le malheur, que la difficulté soit grande ou petite. فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. Puis qui dira, c'est à Allah que nous appartenons et vers lui est notre retour. Cette parole, nous l'avons expliquée la semaine passée. Inna lillah, nous appartenons à Allah. Na'am, Allah Azza wa Jalla est notre maître. Nous sommes ses serviteurs, c'est notre créateur. Nous sommes ses créatures, c'est celui qui gère et administre toutes nos affaires. C'est donc le seul qu'on adore. Wa inna ilayhi raji'un. Na'am, inna lillah, ay ana lillahi abdu. Wa inna ilayhi raji'un ba'da al-mawt yawm al-qiyamah. فأقف بين يدي ربي ويحاسبني ويجازي العباد على ما عملوا في الدنيا. Et c'est vers lui qu'est notre retour après la mort, يوم القيامة, lors de la résurrection. Nous serons jugés, appelés à comparaître devant Allah, jugés, rétribués. Puis la personne dit: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. Puis la personne ajoute, oh Allah, donc Allahumma signifie, comme vous le savez désormais, oh Allah, accorde-moi une récompense dans mon affliction. Je demande à Allah Azza wa Jalla la récompense pour ce malheur, du fait que tu te montres endurant, patient, tu retiens ton cœur de toute mauvaise opinion d'Allah, de toute révolte devant le décret d'Allah, tu retiens ta langue de toute mauvaise parole, et tu retiens tes membres de toute mauvaise action. De par cela, tu espères la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu la lui demandes. Wa akhlifni khayran minha. Puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te remplacer ce que tu as perdu, de t'accorder après, yani en t'accordant la récompense pour le malheur, de te remplacer par meilleur, de remplacer ta situation, de te remplacer ce que tu as perdu, ce que tu as manqué, ce que tu espérais, par meilleur. Ici, il y a fadlu al-istirja'. On voit ici le mérite de cette parole. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah Azza wa Jalla rétribue ses serviteurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur remplace par meilleur. Et ici, il y a un ajout, na'am, que nous n'avions pas eu dans l'étude du verset de Sourate al-Baqarah. C'est talab al-ajr wal-iwad. C'est la demande de récompense et du remplaçant. Wallahu al-mu'ti al-mani'. Et Allah est celui qui donne et qui reprend. Si Allah t'a repris un peu, il peut te rajouter et te remplacer par beaucoup. Na'am. Et cette parole n'est pas donc à prononcer que lors du décès, mais lors de tout malheur, de toute difficulté, qu'elle soit minime ou qu'elle soit immense. Quelle est la récompense? Illa ajarahu Allahu fi musibati. Fi musibati. Toute personne touchée par un malheur qui prononcera ces termes, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera dans sa difficulté, dans son malheur, dans son affliction, et lui remplacera par meilleur. Et lui remplacera par une chose meilleure. Puis Umm Salama radiallahu anha parle de son histoire personnelle et illustre la véracité des propos et de la promesse par ce qui lui est arrivé à elle-même radiallahu anha. Elle dit: Falamma tuwfiya Abu Salama, lorsque Abu Salama est décédé, qui est Abu Salama? Abu Salama était l'époux de Umm Salama. Na'am, une personne très vertueuse parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de noble renommée, une personne pieuse, de noble comportement. Son époux est décédé, et sans aucun doute, une des plus grosses épreuves pour la femme, c'est la perte de son époux. D'une manière ou d'une autre, ici c'est le décès. Elle nous dit: Qultu kama amarani rasulullah. J'ai dit comme m'a ordonné le messager d'Allah. C'est-à-dire lors de son malheur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a orienté, l'a conseillé, et il lui a dit de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Elle a dit cela. Na'am, elle a prononcé ces paroles. Et ici on voit Hirsu al-Sahaba رضي الله عنهم في أخذ إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته المباركة. Et de cela on voit la motivation des compagnons et le suivi exemplaire qu'ils avaient dans les conseils et dans les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de rechercher sa science. في رواية أنها تساءلت ومن خير من أبي سلمة. Dans une version du hadith, elle s'est interrogée. Mais qui est meilleur que Abu Salama? Mais qui est meilleur que Abu Salama? Dans la dua, il y a wa akhlif li khayran minha, et remplace-moi par une chose meilleure. Naam. Donc elle s'est demandé, mais qui est meilleur que Abu Salama? Et dans cela, il y a le fadl Abu Salama et le fait que c'était un époux exemplaire. Naam. Et si ça existe, Allahu a'lam, très très rares sont les femmes qui, naam, qui peuvent ne pas se plaindre ou qui arrivent à ne pas se plaindre de leur mari, n'est-ce pas? Mais ayqanat bi wa'd Allah subhanahu wa ta'ala wa bi sidqi rasulihi al-karim alayhi salat wa salam. Si ce n'est que elle a eu la certitude dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de cela on tire une grande faïda, c'est que quelle que soit la lourdeur de ton malheur, sache qu'Allah azza wa jal peut te remplacer par mieux, il peut te donner encore plus, il peut panser tes plaies, tes douleurs et te remplacer par plus. Et on voit que Umm Salama n'a pas fait comme ou n'a pas dit comme certaines personnes: oui mais tu n'as pas été touché par mon malheur, oui mais moi j'ai eu telle chose. Ces gens là ont un manque de iman dans la véracité ou bien dans la promesse d'Allah, dans la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le malheur leur a fait perdre l'endurance à un point tel qu'ils n'ont pas la certitude dans la promesse, et cela donne lieu à ces mauvaises paroles qui témoignent clairement et franchement d'un manque de iman, d'un manque de foi, de piété et d'endurance. Celui qui reprend et celui qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi est-ce que l'âme voit cela trop loin de lui? Pourquoi elle se dit, non, moi on ne peut pas me remplacer, ou moi je ne peux pas avoir meilleur, ou je ne pourrai jamais remplacer cette chose que j'ai perdue, ou avoir meilleur? Subhanallah, celui qui a donné, celui qui a repris, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et celui qui t'a donné beaucoup peut te donner encore plus. Et celui qui t'a repris peut te donner encore plus et meilleur. Subhanahu wa ta'ala. Elle dit, donc elle a prononcé ces termes, fa akhlafa Allahu khayran minhu. Elle a donc fait ce que lui a dit le prophète alayhi salatu wassalam, et Allah lui a remplacé par meilleur que Abu Salama. Qui est-ce? Suite au décès de Abu Salama, naam, qui est-ce qui a demandé la main de Umm Salama après sa période de viduité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme elle l'a dit, naam, khayran min, le prophète alayhi salatu wa sallam, malgré que c'était Abu Salama, il est meilleur que Abu Salama radiallahu anha. Allah l'a donc honoré et élevé de par son endurance, sa soumission, en lui remplaçant par le meilleur des époux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi l'a comblé en faisant d'elle Ummul Mu'minin, la mère des croyants, wa zawjatun nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dunya wal jannah, et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Non. Donc dans ça il y a une grande exhortation pour toute personne éprouvée. Il faut avoir la certitude dans la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala et prononcer les invocations en espérant la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. خرجه مسلم وقالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهلي فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقول. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. خرجه مسلم. Le hadith suivant est également rapporté par Umm Salama radiallahu anha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra auprès d'Abu Salama qui mourut les yeux ouverts. Il les lui referma. Donc elle raconte l'histoire du décès de son époux avant de s'être marié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Salama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et Abu Salama est décédé. Shaqqa basarahu, yani son regard est resté figé et ses yeux, ses paupières étaient ouvertes. Fa'aghmadahu, le prophète alayhi salatu wassalam les a fermés. Donc lorsque le défunt décède, s'il a les yeux ouverts, il faut les lui fermer directement. Il faut les lui fermer directement. Thumma qal, puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit, donc pour expliquer ce phénomène, certes quand l'âme est saisie, le regard la suit. Lorsque l'âme est saisie, le regard suit cette âme. Et vous savez tous qu'Allah Azza wa Jal a chargé un ange de récupérer l'âme de ses serviteurs. Et il est envoyé avec des anges, soit les anges de la miséricorde, soit les anges du châtiment. Donc le mort suit du regard son âme qui est enlevée. فَضَجَّ النَّاسُ مِنْ أَهْلِي. ضَجَّ النَّاسُ, c'est-à-dire qui, يعني خَرَجَ صَوْتُ مِنْ النَّاسِ فِي الْبَيْتِ عَلَى إِثْرِي مَوْتِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Donc, à l'annonce du décès de Abu Salama, les gens, ou bien certaines personnes de la famille, éclatèrent bruyamment en sanglots. Na'am, à l'annonce de son décès, il y a eu du bruit, les gens ont pleuré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés, les a consolés et a fait une mise en garde contre certains comportements et certaines paroles. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: ne faites pas d'invocation pour vous si ce n'est en bien. Si vous faites des duas, si vous prononcez des paroles, qu'elles soient bonnes. Car les anges répondent Amin, ou Allah exauce cette demande. Les anges disent Amin, ou Allah exauce cette demande à vos propos. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les mauvaises paroles et le fait de faire des mauvaises invocations lors de l'épreuve, plus particulièrement lors du décès ou lorsque te parvient le décès d'une personne. Puis il a orienté vers ce qu'il convenait de dire. Et on voit ici la grande miséricorde du prophète alayhi salatu wassalam envers les croyants. Il a conseillé les gens de sa famille et il a été nasih envers le défunt également. Il a été un bon conseiller, il a été bon envers le défunt en faisant dua pour lui. Car c'est la chose la plus profitable que tu puisses faire pour le défunt. Il a donc dit: Allahumma ghafir li Abi Salama. Oh Allah, pardonne à Abu Salama. Voici la meilleure demande que tu puisses faire pour le mort. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il lui pardonne ses péchés. Donc s'il est mukallaf, si ça n'est pas un enfant. Quant à l'enfant, même dans Salat al-Jinaza, on ne demande pas à Allah qu'il lui pardonne ses péchés, car il n'a pas de péché, on fait dua pour ses parents ou bien pour les croyants selon la vocation prononcée. Élève son degré parmi al-Mahdiyyin. Al-Mahdiyyin هم الذين جمعوا بين العلم النافع وبالعمل الصالح. المهديين, ce sont ceux qui sont bien guidés. Ce sont ceux qui ont uni entre la science bénéfique et les actions pieuses. Ce sont ceux qui ont uni entre la science bénéfique et les actions pieuses. Fa adraku al-haqqa wa 'alimuhu wa 'amilu bih. Ils ont compris, ils ont su, appris la vérité et ils l'ont mise en pratique. Wa ensuite le prophète alayhi salatu wa salam a demandé une troisième chose pour Abu Salam. Wa khlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un successeur parmi ses descendants en vie. Donc lui a fait ce qui lui a été inscrit dans sa vie. Mais il reste des gens derrière lui. Alors il demande à Allah azza wa jal de lui accorder des successeurs parmi ceux qui sont encore en vie. Ici c'est talabul iwad. On demande un remplaçant. Toi tes actions s'arrêtent. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que les gens qui sont vivants peuvent te faire du khayr, peuvent faire du'a pour toi, et plus particulièrement un enfant pieux que tu laisserais. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha mat ibn adam inqata 'amalu illa min thalath illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses actions s'arrêtent sauf trois, et parmi les trois il a cité sallallahu alayhi wa sallam un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Pas n'importe quel enfant. L'enfant qui connaît le haqq d'Allah. Le haqq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le haqq de ses parents. Ainsi, il invoque Allah azza wa jal de leur vivant et après leur mort. Donc, il demande un remplaçant dans sa famille parmi les gens pieux. Ensuite, il continue à invoquer Allah azza wa jal en sa faveur. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Il a déjà demandé à Allah de lui pardonner, mais il réitère cette demande. On voit ici que la chose la plus importante et la plus bénéfique pour le défunt, c'est quoi ? Al-istighfar, talabul maghfir. C'est de demander à Allah de lui pardonner. Tu ne peux faire mieux pour tes parents, mieux pour le musulman, que de dire Allahumma ghfir lahu. Ou Allah pardonne-lui. Naam. Il a invoqué Allah Azza wa Jal également en sa faveur. Donc ici, il a répété la demande de pardon. Ça nous montre l'importance de cette demande pour le défunt et même pour la personne vivante. Puis, une autre demande. Wafsah lahu fi qabri. Donc pardonne-nous ainsi qu'à lui, au Seigneur des mondes. Agrandis sa tombe. Naam, la tombe, tilkumu al-hufra al-dayiqa. La tombe, c'est ce trou serré. Donc il demande à Allah Azza wa Jal d'élargir sa tombe. Et Allah Azza wa Jal est à la kulli shay'in qadir. Allah est parfaitement omnipotent, il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Wa nawwir lahu fihi. Et illumine-le, ou bien illumine-la. Naam. Puis il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder cette lumière, car le qabr, muzlim, la tombe, c'est un endroit ténébreux, très sombre. Au moment où elle est ouverte, où elle est creusée et tu te tiens debout avant de mettre le mort, que dire alors après avoir introduit le mort dans sa tombe et après avoir jeté le sable et la terre dessus? À plus forte raison. Donc tu demandes à Allah azza wa jal pour le mort qu'il illumine cet endroit. Kharrajahu Muslim. Cette dua, le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait pour Abu Salama, mais tu peux la prononcer lorsqu'il te parvient l'annonce d'un décès. Donc quand on t'informe du décès d'un musulman, il est légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. C'est ainsi que se finit ce chapitre. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الدين. Donc le chapitre de la dette, c'est-à-dire ce qu'il nous est légiféré de dire pour celui qui est endetté. Voilà. Ce chapitre, on l'a déjà étudié et vous le trouverez inshallah ta'ala sur le site. Mais parmi ce qu'il nous est légiféré de dire, Allahumma kfini bi halalika an haramik. وأغنني من فضلك عمن سواك. Ô Allah, dispense-moi de ce que tu as interdit au profit de ce que tu permets et fais que ta faveur me dispense de recourir à un autre que toi. Le chapitre suivant, Faslun Firruqa, le chapitre 2 des incantations. Le chapitre des incantations. Arruqa, jam'u ruqya. Arruqa, c'est le pluriel du mot. Arruqya. Wa hiya qira'a. Adhkar wa da'awat. Ma'a nafs. Arruqya, qu'est-ce que c'est? C'est une lecture, une récitation accompagnée de souffle, d'air et de poussionnement sur la personne. Voici ce qu'est Ar-Ruqya. Quant à la chose récitée, des versets coraniques, des invocations prophétiques ou toute bonne parole. Ar-Ruqya, Mashru'a. Et Ar-Ruqya, son jugement, c'est que c'est légiféré. Ja'at fi kitab Rabbina Azza wa Jal wa fi sunnati Rasulina al-Karim alayhi salatu wa salam wa kanat ma'rufatan qabla l'islam fi al-jahiliya. Ar-Ruqya, son jugement, c'est que c'est légiféré. C'est permis. Et on a cité cela dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, et sachez que c'était connu même avant l'islam, dans la période anti-islamique. C'était connu même avant l'islam dans la période anti-islamique. قال الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Dans sourate Al-Qiyamah, dans la sourate La Résurrection, au verset 26-27, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction des sens, « Mais non, quand l'âme arrive au clavicule et qu'on dit « Qui est exorciseur ?» Qui peut lui faire ruqya ?» Naam. Donc ce terme est cité dans le Coran. Ce terme est connu et il est cité, comme on le voit ici, dans Al-Qur'an. Et ce verset a été expliqué de deux manières par les exégètes du Qur'an. Wa qila man raq. Ala ahad at-tafsirayn hadha qawlu ahli al-mayt. Donc l'une des explications est de dire que cette parole prononcée est la parole des proches de celui qui est en train de mourir, de celui qui est sur son lit de mort. Naam. Il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lui faire ruqya? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un remède, qui peut tenter de lui apporter guérison par la cause d'Allah subhanahu, ou par, yani, qui peut être la cause de sa guérison par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qawlu thani, la deuxième explication du verset est de dire, hadha qawlu al-mala'ika, wa qila man raq, et la parole des anges. Ay man yarqi bihadhihi ar-ruh wa yarfa'uha aw yarqa man yarqa bihadhihi ar-ruh. La deuxième explication est de dire que c'est la parole des anges qui disent qui est-ce qui va monter avec cette âme, qui est-ce qui va monter avec cette âme et l'élever, les anges qui viennent pour récupérer l'âme du défunt. وكما أن الرقية جاءت في القرآن فكذلك جاءت في السنة. Et tout comme الرقية a été citée dans le Coran, elle a également été citée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجميع الدعوات والأذكار المباركات عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مليئة بالتوجه إلى الله عز وجل الخالص وبالتوحيد وبصدق الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والإخلاص والتذلل Amam Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les ruqyas et les formulations du prophète alayhi salatu wa salam lors de ruqyas, on voit qu'elles renferment at-tawhid. L'unicité d'Allah azza wa jalla, la proclamation de qu'il est le seul à mériter l'adoration. On voit la sincérité, on voit le fait de se diriger sincèrement vers Allah azza wa jalla, abandonner notre affaire auprès de lui, ne compter pleinement que sur lui subhanahu wa ta'ala quant à l'obtention de la dissipation du mal ou de la maladie ou du problème. Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbarana bi anna al-Qur'an al-Karim unzila shifaan lin-nas. Également Allah azza wa jalla nous informe dans le Coran que la révélation du Coran, que ce Coran, na'am, est une guérison pour les gens. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Wa fi al-ayat al-ukhra wa shifaa'un lima fi as-sudur. Allah nous enseigne dans le Coran que le Coran est une guérison pour les poitrines. Et dans l'autre verset, selon la traduction des sens, et nous révélons du Coran ce qui contient une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc le Coran, c'est un moyen de guérison. Mais chaque médecin a des compétences, un niveau, et l'effet de ses connaissances et la répercussion de ses connaissances sur le malade est aussi en fonction de l'état du malade. Et aussi en fonction de l'état du malade, du cœur du malade, de la piété du malade. وَسُنَّةُ جَاءَتْ بِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ الْجَامِعِ الشَّامِلِ لِلْخَيْرِ. Et la sunna, comme dans tout domaine, est venue avec les meilleures des paroles, les plus complètes, les plus parfaites, celles comprenant le meilleur des comportements devant Allah subhanahu, envers Allah subhanahu wa ta'ala. وهو عوض لهذه الأمة المكرومة المكرمة أمة الإسلام عما كان فيه ماذا في الجاهلية من الرقية من الرقى الشركية والتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى الخرافات. Et الرقية qu'on trouve dans les textes, c'est ce par quoi Allah honorait cette communauté et a remplacé ce qu'il leur a accordé comme remplacement ou comme remplaçant devant ce qu'avaient les associateurs avant l'islam, comme ruqya shirkiya, comme formule d'incantation remplie de polythéisme et de demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et de citation d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'innovation. Donc alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout enseigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ما أنزل الله داء إلا ومعه دواء علمه من علم وجهله من جهل. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis في الدنيا pour nous éprouver. ليبلوكم أيكم أحسن عمل. Pour vous éprouver et voir lequel d'entre vous va le mieux agir, comme au début de sourate al-Mulk. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Très nombreux sont les textes parlant de l'épreuve. Parmi les épreuves, la maladie. Parmi les épreuves, la maladie. Parmi les épreuves, le fait d'être touché de sorcellerie, le fait d'être touché du mauvais œil, le fait d'être touché de telle chose et de telle chose, de problèmes psychologiques, de problèmes psychiques, de maladies physiques. Ben pour tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il y ait avec cette maladie son remède. Son remède. Donc il y a un remède pour toute maladie. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ajoute: en a connaissance celui qui en a eu connaissance, et ignore cela celui qui l'a ignoré. C'est-à-dire les gens ne sont pas égaux devant la connaissance des remèdes. Devant la connaissance des remèdes. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Tadao ya ibad Allah, soignez-vous aux serviteurs d'Allah, wala tadao bi haram, mais ne vous soignez pas avec des choses illicites. Donc c'est une épreuve.
Et il faut faire les causes. Parmi les plus grandes causes, al-adhkar. Parmi les plus grandes causes, al-du'a. Le fait d'invoquer Allah. Le fait de faire les, de prononcer les adhkar. Et parmi les plus grandes causes, il y a al-ruqyatu al-shar'iyya. Wa hadha mawdu'una. Et parmi les plus grandes causes, il y a le fait de pratiquer al-ruqya sur soi-même ou sur autrui. Et voici ici notre sujet, qui est vaste, mais on va essayer de prendre les points principaux en suivant le livre, inshallah ta'ala. Une qissa qui montre que al-ruqya a été connu dans la jahiliya, c'est l'histoire, ou bien avant cela, le fait que le prophète alayhi salatu wa salam ait dit aux compagnons: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aux compagnons: montrez-moi vos ruqya. Faites-moi entendre vos ruqya. Que dites-vous? Comment faites-vous ruqya? Il n'y a pas de mal à faire ruqya tant qu'elle ne comprend pas de shirk, de polythéisme. Il n'y a pas de mal à faire ruqya tant que cela ne comprend pas de shirk. Et une des belles histoires dans ce sujet, l'histoire de la conversion de Dhimad al-Azdi, avec un dhad, Dhimad al-Azdi. L'histoire de sa conversion est citée dans Sahih Muslim et dans d'autres recueils de hadith. Le hadith est rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhuma, dans lequel il nous dit: Inna Dhimadan qadima Makkah. Dhimad est venu à la Mecque. Wa kana min Azd Shanoua, et il faisait partie de cette tribu. Wa kana yarqi min hadhi ar-rih, et il faisait ruqya contre le mas du shaitan et contre ces choses-là. Fa sami'a sufaha ahli Makkah, il a entendu les idiots de la Mecque dire: inna Muhammadan majnoun, dire que Muhammad avait perdu la raison. Faqala ay fi nafsi law anni ra'aytu hadha ar-rajul, si je rencontrais cet homme, la'alla Allah yashfihu ala yaday, peut-être qu'Allah, j'espère qu'Allah le guérira, na'am, par ma cause. Falaqiya, c'est alors qu'il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala ya Muhammad, il dit: oh Muhammad, inni arqi min hadhi ar-rih, je fais ruqya contre ce mal qui te touche, ni la folie. Wa inna Allah yashfi ala yaday man yasha, et certes Allah guérit qui il veut par ma cause. Fa hal laka ay hal tuhib an arqik, n'am, fa hal lak, yani est-ce que tu permets ou est-ce que tu aimerais que je te fasse ruqya. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous avez compris la situation, le contexte. Dhimad arrive à Mecca. Il entend les gens parler en mal sur Muhammad صلى الله عليه وسلم, comme c'est le cas des gens du Haqq de toute époque. Na'am, de toute époque. Et Ali, on les dénigre, on les insulte, on les qualifie de par des sobriquets et autres. On essaie de dénaturer la vérité sur laquelle ils sont pour éloigner les gens de la masse de leur prêche qui n'est autre que la vérité, car il est en conformité avec le Coran et la Sunna. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que c'était un menteur, en disant que c'était un mada, quelqu'un qui a insulté les ancêtres, ne respectait pas les personnes âgées, et parmi leurs paroles, majnoun. Parmi les paroles, ils ont dit: il est majnoun, il est atteint de folie, il a perdu la raison. Donc Dhimad, après avoir entendu cela, il est parti le voir et lui a dit: est-ce que tu veux que je te fasse ruqya? Car je connais ce domaine et Allah guérit des gens par ma cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Il lui a dit, khutbatul hajj, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, nous recherchons l'aide auprès de lui et nous lui demandons pardon. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare, nul ne pourra lui accorder la guider. jusqu'à arriver à et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré excepté Allah seul son associé que Mohammed est son serviteur et messager. Amma ba'd, en outre. Faqala a'id 'alayya hadha al-kalam. Dhimad est resté estomaqué, perturbé, ébahi, émerveillé devant ce qu'il venait d'entendre. Et il lui a dit, répète-moi ce que tu viens de dire. Répète-moi ce que tu viens de dire. Alors le prophète alayhi salatu wa salam a'adahum a répété ses paroles. Trois fois. Dhimad lui demande de répéter et il est émerveillé par ce qu'il vient d'entendre. Faqal radiallahu anhu, et à cette époque il n'est pas musulman. Il a dit après avoir entendu cela, laqad sami'tu qawl al-kahana. J'ai certes entendu les paroles des devins. Wa qawl as-sahara, les paroles des sorciers. Wa qawl ash-shu'ara, les paroles des poètes. Fama sami'tu mithla kalimatika haula. Mais je n'ai jamais entendu dans tout cela pareil à ce que tu viens, semblable à ce que tu viens de me réciter. Puis il lui a dit qu'il a atteint Qamus al-Bahr. Yani, c'est comme si on disait yani, ma science ou notre science, ou bien plutôt ta parole, a transpercé mon cœur et les profondeurs de la mer, yani, en connaissance et en perfection. Hat yadak ou bayak. Puis il lui a dit, donne-moi ta main afin que je me convertisse et que je te prête allégeance. Et que je te prête allégeance à l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وعلى قومك. Il lui a dit, est-ce que tu prêtes allégeance pour toi et tout ton peuple? Et il lui a dit علي وعلى قومي. Et il lui a dit pour moi et pour tout mon peuple. Tout mon peuple ainsi que moi-même, nous entrons en islam et nous te suivons. Pourquoi? Parce que Dhimad kana sayyidan fi qawmi. Dhimad, c'était un leader dans son peuple, c'était une tête na'am dans son peuple. Cela prouve que Ar-Ruqya était connu avant l'islam. Mais l'islam est venu légiférer et mettre des règles sur Ar-Ruqya. Le premier hadith cité par l'auteur, rahimahullah ta'ala, قال Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فندغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتينا هؤلاء الرهط الذي نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقال أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه هل عند أحد منكم من شيء قال بعضهم والله إني أرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبا قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أن رقية ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Le premier hadith est le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partirent en voyage et firent halte chez une tribu arabe. Ils sollicitèrent leur hospitalité mais se heurtèrent à leur refus. Le chef de cette tribu fut piqué par un scorpion ou une chose semblable. Ils tentèrent tout ce qui était possible mais rien ne fut utile. Certains suggérèrent: pourquoi ne pas vous rendre chez ce groupe qui a fait halte? L'un d'eux pourrait avoir une solution. Ils allèrent donc les trouver et dire: aux gens, notre chef a été piqué et nous avons tout tenté sans que rien ne soit utile. l'un de vous a-t-il une solution ? Un homme du groupe répondit : par Allah, je pratique al-ruqya. Ils traduisent par l'exorcisme, je ne sais pas si le terme est adéquat. Mais par Allah, nous vous avons demandé l'hospitalité et vous nous l'avez refusé. Je ne pratiquerai donc aucun exorcisme pour vous, à moins que vous ne nous donniez un salaire, une contrepartie. Ils convertent alors avec eux d'un troupeau de moutons. Dans une des versions du hadith, une trentaine. Celui qui a fait ruqya se rendit donc auprès du chef et cracha légèrement sur lui en récitant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire Al-Surat Al-Fatiha. Ce fut comme si on avait délié le chef d'une entrave et il se mit à marcher sans aucune peine. Vous voyez le cercle qu'on met au genou du chameau lorsqu'on le fait s'asseoir pour pas qu'il puisse se relever. Vous voyez ce dont il s'agit. Certains parmi les gens du golf le mettent sur leur tête, traditionnellement. Lorsque le chameau, na'am, se met à terre, on lui accroche cela au genou, na'am, afin qu'il ne puisse se relever. Ben, le sahabi, il parle de ça. Il dit, c'est comme si on l'avait délié, c'est comme si on lui avait enlevé ce cercle qui était autour du genou du chameau lorsqu'il est assis. Que se passe-t-il ? Il peut se lever immédiatement. Voici le sens. Et il se mit à marcher sans aucune peine, alors qu'auparavant il était alité, il ne pouvait bouger. Les gens de la tribu remirent leur salaire aux voyageurs comme convenu, et certains de ceux-ci dirent : partageons. Mais celui qui a fait ruqya intervint en disant : n'en faites rien jusqu'à ce que nous allions trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que nous lui rapportions l'événement et que nous voyions ce qu'il nous ordonnera. Ils vinrent trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui rapportèrent le récit. Il demanda à Allah : et comment savais-tu, c'est-à-dire le prophète alayhi wa sallam a dit aux compagnons, comment as-tu su que cette ruqya, ou bien que Alhamdulillah, était une ruqya? Ensuite il déclara : vous avez bien fait, partagez et donnez-moi aussi une part. Puis il se mit à rire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit ici qu'il y a de nombreux hadiths sur ruqya. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, de par son grand fiqh, a commencé par le hadith de Abi Sa'id al-Khudri. Pour quelle sagesse ? Pour quelle sagesse ? Indaman. Pour quelle sagesse ? Est-ce que je vais devoir entendre que celui qui fait l'enfant qui fait du bruit de l'autre côté grandisse pour venir répondre à votre place ? Non. Parce que dans ce hadith-là, celui qui fait ruqya a utilisé le Coran. Et c'est la meilleure parole. Tadouru hawla al-hima. Il y a beaucoup de hadiths. Et l'auteur ici en a cité plusieurs. En prenant soin de commencer par le hadith de Abu Sa'id al-Khudri. N'est-ce pas ? Quelle est la sagesse de cela ? Naam. Parce que Al-Fatiha est la sourate la plus importante du Coran. Yani. Pour montrer qu'il faut utiliser le Coran. Indaman. Par rapport à la simplicité de réciter Al-Fatiha pour faire ruqya. Peu de paroles ont eu un effet très bénéfique sur la personne. C'est la première parole du Coran. Al-Fatiha est la première, et la première sourate qui a été révélée. Vous êtes d'accord ? C'est la première sourate du Coran. Non. Le Coran est une guérison. Et la meilleure des sourates est le Fatiha. Indaman. Naam. C'est Umm al-Qur'an, c'est la mère du livre. C'est là à laquelle l'ensemble des sens du Qur'an reviennent. Elle est la mère des ruqya. Attends, voilà le réponse. Parce que le Fatiha أعظم رقية. Parce que l'Fatiha est la meilleure des ruqya. Na'am. Vous avez dit c'est la meilleure sourate du Coran. Vous avez dit c'est la sourate la plus immense du Coran. Vous avez dit notre chapitre c'est ruqya. Donc c'est la meilleure des ruqya. Na'am. Voici pourquoi l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé par ce hadith. لأن سورة الفاتحة أفضل وأعظم رقية فأعظم مرض يرقي المريض نفسه وغيره سورة الفاتحة. Donc la meilleure chose par laquelle tu peux faire ruqya sur ta personne ou sur quelqu'un d'autre, c'est le Fatiha. Malgré ça, que se passe-t-il Ibrahim? Malgré ça, les gens vont voir les sorciers et ils vont voir les, tu peux le dire, t'inquiète, les marabouts et Jri et dites voilà ta khafou, les charlatans wal kadhaba wal affakin wal sahara wal mouchaouidin qatalahumullah, hein, les al fatiha que nos enfants mémorisent est suffisante pour faire al ruqya. Malgré ça, les gens courent à droite, puis à gauche, puis devant, puis reviennent en arrière, puis. Et malgré ça, ça c'est le premier mada tanbih, la première remarque. Et malgré ça, la deuxième remarque. Adam, t'as une remarque? T'es en voyage? T'es parti où? Au Maroc? Ni'am al-balad. Na'am. T'habites où? C'est quoi la grande ville qui est à côté de chez toi? Rabat? Allah hafadk. Malgré ça, les gens, au lieu de se faire ruqya eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envoient un message et ils te demandent, est-ce que tu connais Araki? Oui, je connais Araki, toi-même. Na'am. Est-ce que tu mémorises le Fatiha? Oui, alors tu es Araki. Ça n'existe pas, yani. Un Araki, un rôle de Araki, un travail de Araki, un centre de raqi, un mada, subhanallah. Tu connais le Fatiha, tu fais ruqya. Pas plus tard qu'au Jumu'ah, un frère est venu, est-ce que vous connaissez quelqu'un pour faire ruqya à ma tante? Oui, toi-même. Tu connais le Fatiha, na'am, wala bud. Qui ne connaît pas le Fatiha? Si ce n'est quelqu'un qui vient de se convertir, il y a quelques heures. Donc tu connais le Fatiha, na'am, tu fais ruqya. Comme on va le voir ici dans le hadith, juste ce hadith, ça t'apprend à faire ruqya. Na'am, lisons lui là-bas, c'est un raqi, il est très fort. Ça veut dire quoi, un raqi très fort? Très fort, il a des muscles ou un raqi, comment ya? Ida kana salihan, s'il est pieux, et si toi tu te diriges uniquement vers Allah Azza wa Jal, wa tarju shifa min Allah Azza wa Jal, les causes seront unies, inshallah, Allah yashfik. Na'am. Donc avec Al-Fatiha, tu fais ruqya. C'est pour ça qu'on surnomme Al-Fatiha. Comment? Al-Shafiya Al-Kafiya. D'accord? Celle qui guérit et qui est suffisante. Pourquoi? Celle qui guérit parce que dans ce hadith, l'homme a été guéri par la grâce d'Allah. Et dans ce hadith, le sahabi n'a pas ajouté à surat Al-Fatiha. C'est pour cela que les savants l'ont surnommé Al-Shafiya Al-Kafiya, celle qui guérit et qui est suffisante. Al-Fatiha résume l'essence de tout le Coran. Ce qui a été cité de Surat al-Baqarah à Surat al-Nas a été résumé dans Surat al-Fatiha. A été résumé dans Surat al-Fatiha. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « La ta'thirun ajib » Il nous dit que Surat al-Fatiha, sa lecture a un effet des plus étonnants. Wa kuntu fi Mecca, yusibuni ba'd al-amrad. Il dit j'étais à Mecca et j'étais touché par certaines maladies. Wa la ajidu laha dawa'an, et je ne trouvais pas de remède. Fa kuntu arqi nafsi bi Surat al-Fatiha. Il dit je me faisais ruqya avec Surat al-Fatiha. Fa ara ta'thiran 'ajiban. Il disait je voyais des effets de cela des plus étonnants. Allah me guérissait suite à cela. Puis, j'orientais les autres Yani quand je trouvais quelqu'un qui était malade, je le conseillais. Na'am, je lui conseillais de réciter le Fatiha, de se faire ruqya. Revenons au hadith. Dans le hadith, on voit qu'ils étaient un petit nombre. Ar-rahta. Que signifie ar-rahta? Et dans quel livre avons-nous étudié ce terme? Na'am. Dans Kitab al-Tawhid. Et la réponse à ma première question? Al-Jama'a Duna Duna Ashra, Zakallahu Khayra. Al-Rahta, c'est le groupe de moins de 10 personnes. Al-Rahta, c'est le groupe constitué de moins de 10 personnes. Donc les compagnons étaient en voyage et ils étaient moins de 10. Ils se sont arrêtés dans une tribu arabe, dans un endroit précis, et ils ont demandé l'hospitalité. Ils se sont vus refuser cette hospitalité. Et le voyageur est l'invité à un haq, à un droit sur le résident. Il a un droit sur le résident. Donc ils ne leur ont pas donné leur droit. Plus tard, leur chef l'audira. L'audira, c'est une piqûre d'un insecte qui a un venin, comme le scorpion par exemple. والسيد يطلق على كبير القوم سيدهم لودرا السيد يعني dans un peuple c'est leur chef, c'est le meilleur d'entre eux, celui qui prévaut sur les autres. Ils ont tout tenté, c'est-à-dire tous les remèdes, tout ce qu'ils connaissaient. La ينفعوا شيء, mais rien ne lui a été profitable. Pourquoi? Parce que la guérison, elle est entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause et son effet, qu'est-ce qui les a créés? Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui décide si la cause sera effective ou pas, si elle fonctionnera ou pas, dans ce cas-là ou sur cette personne ou pas. Faqala ba'duhum, ils se sont dit, law ataytum ha'ulai rahta. Ils se sont conseillés mutuellement, pourquoi ne pas aller trouver ce groupe qui a fait halte chez nous? Peut-être que l'un d'entre eux, un remède, sont venus les voir et leur ont demandé. Ils leur ont exposé la situation, leur chef est malade, il a été piqué, et on a tout tenté, mais rien n'a été profitable pour lui. Est-ce que vous avez un remède? L'un d'entre eux a dit, par Allah, je fais al-ruqya. Par Allah, je fais al-ruqya. Mais on vous a demandé l'hospitalité, et vous nous l'avez refusé. Et vous nous l'avez refusé. Donc par Allah, Je ne pratiquerai donc aucune ruqya pour vous, à moins que vous nous donniez un dédommagement. Puis ils se sont mis d'accord sur une chose. Dans une autre version du hadith, une trentaine de bêtes. Quand il a dit inni arqi, c'est-à-dire que je fais bien ruqya. Ici, une remarque très importante. Certaines personnes pourraient penser, de manière erronée, que de ce hadith on tire la permission de faire du commerce avec un ruqya et de conditionner un salaire ou une somme pour un ruqya, et alors qu'il en est tout autrement. Méditons ce hadith à la lumière des enseignements de nos savants. Est-ce que celui qui a fait ruqya, ibtida'an ishtara, est-ce que celui qui a conditionné un dédommagement a demandé cela à la base même, ou bien suite au refus de leur donner leur droit d'hospitalité? Est-ce qu'il est venu, il a dit je fais ruqya contre telle chose? Non. Mais comme ils ont refusé de leur accorder leur haqq, il leur a dit je fais ruqya, ma condition que vous nous donniez quelque chose, parce que vous nous avez empêché et refusé notre haqq. Est-ce que vous voyez la différence entre ces deux situations ou pas? La première, c'est de venir et de demander. Suite à la demande de la personne, tu lui dis oui, je te fais ruqya, mais pour combien? Tu veux que je te récite El-Fil ou bien El-Baqara? El-Fil, 15 euros. El-Baqara, 50 euros. Hein? Une heure, Mada, 20 euros ou je ne sais pas c'est combien, 2 heures يعني 35 euros, c'est un forfait. Est-ce qu'ils faisaient ça, sahaba? Est-ce que tabi'oun ont fait cela? Abadan, ils n'ont jamais fait cela. Mais ici, comme l'ont expliqué les savants, c'est une situation particulière, on leur a empêché le haqq. Et si tu te retrouves dans cette situation particulière, tu pourras avoir cet agissement particulier. Donc il est permis de se comporter ainsi pour celui qui a cette même situation. C'est-à-dire qu'on t'a empêché ton haqq, alors tu vas conditionner avant de faire la chose. Alors tu vas conditionner avant de faire la chose. Par exemple, quelqu'un est en voyage. Il demande son chemin. Ça leur coûte quoi de te donner ton chemin? Rien du tout. Ça leur coûte rien du tout. Malgré ça, ils ne t'orientent pas. Par la suite, ils ont un besoin. Par la suite, ils ont un besoin. Ils viennent te voir. Tu leur dis, je vous ai demandé mon chemin. Je suis voyageur. Et vous n'avez pas voulu m'orienter. Et maintenant, vous me demandez ce service. Je vous accorderai votre demande, mais à condition que vous me donnez telle ou telle chose. Ici, il n'a pas conditionné cela à la base même. Mais suite à un droit qu'on lui a refusé, il a conditionné pour récupérer son haqq. Naam. Et on voit ici qu'ils ont eu des incompétences ou des imperfections quant au comportement à avoir envers le voyageur et celui à l'invité, si on peut dire cela, yani celui qui a fait halte. Contrairement à ceux qui ont fait des centres de ruqya, tout comme il y a iyadatul yani des centres de médecine, naam, et des hôpitaux, certains ont fait désormais des centres de ruqya. Naam, des salles de ruqya. Et ils utilisent ce hadith pour conditionner avant de faire ruqya à la personne, une somme d'argent. S'il n'a pas d'argent, alors des biens matériaux ou des bêtes dans des zones rurales et ainsi de suite. Ils disent, alors qu'ils voient la personne devant elle remplie de détresse, et peut-être qu'elle est pauvre, tu veux que je te récite? Il n'y a pas de problème. Mais combien est-ce que tu me donnes? Ça n'est pas gratuit. Donc, pour la ruqya, pour la première ruqya, c'est 50 euros. Et si ensuite tu veux un forfait, ça sera 40 euros. Et ça durera 45 minutes. Pas une minute de plus. Et ensuite, il y aura le suivant, et ensuite le suivant. Et c'est du travail à la chaîne. Est-ce qu'il fait cela parce qu'il aime réciter le Coran? Est-ce qu'il fait cela parce qu'il n'a pas eu le temps de finir le Coran durant sa nuit, parce qu'il a prié longuement et avec tartil? Ou bien est-ce qu'il fait cela al-hakum al-takathur, à la course aux richesses? Donc la personne malade et en détresse vient la voir, et lui, il cherche à spolier ses biens et à prendre ses richesses. Et la personne est tellement en détresse et tellement dans la difficulté qu'elle ne compte pas. Elle est prête à s'endetter, elle est prête à transgresser et à commettre le haram pour avoir al-ruqya, car elle ne voit son remède que dans cela, du fait qu'elle n'a pas été éduquée sur le tawhid, ou qu'on ne l'a pas orientée vers les gens du tawhid. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aussi, ces gens-là disent, je vends telle bouteille d'eau, sur celle-ci j'ai récité al-fatiha, sur celle-ci j'ai récité al-fatiha avec Qul huwallahu ahad, al-falaq et al-nas, ça c'est par exemple 10 euros, mais sur telle autre j'ai récité al-baqarah, et là c'est le triple du prix, et ainsi de suite. Telle huile c'est 10 euros, j'ai récité al-fatiha, et telle autre c'est 20 euros, j'ai récité al-fatiha plus telle et telle sourate. Wahakala. Naam. Donc ils ont fait de al-ruqya, de la lecture du Coran, une tijara, un commerce. Je ne chercherai pas à te soigner avec al-ruqya, si ce n'est en prenant telle somme d'argent. Alors qu'il voit la personne malade et dans la difficulté, dans la détresse devant elle. Ceci n'est pas conforme au Coran ni à la Sunna. Ceci n'est pas permis en islam. Wa-ruqya, dans la ruqya, il n'y a pas de différence entre le riche et le pauvre. Parce que al-ruqya, c'est mabni ala al-ihsan ila al-ghayr. Al-ruqya, c'est basé sur la bienfaisance Naam, sur l'envie d'aider l'autre et de lui être profitable. Quant à celui qui est dans le besoin et à qui on prend le temps, donc il ne va pas aller travailler mais il va se mettre au service des gens pour réciter, de toi-même, sans qu'il demande, non, tu vas le dédommager pour son temps, pas pour la lecture. Non, mais il t'a rendu un service, tu le dédommages. Et il a mis son temps au service de l'aide des musulmans et pour les aider ou des gens, alors tu le dédommages. Non. Ou lui-même, il peut dire qu'il est dans le besoin. On l'aide financièrement. Quant à celui qui en fait un commerce, voici celui qui tombe dans le haram. Donc c'est un sujet pointilleux qu'il faut comprendre. Et certaines personnes transgressent encore plus. Et aller au-delà de l'aspect financier, ils transgressent dans ce qui concerne la ruqya faite aux femmes. Yakhlu bil mar'a. Donc il reste en privé avec la femme. Wa yamassuha, il la touche. Il met sa main sur sa tête pour réciter. Ou bien il colle sa bouche à son oreille. Et comme Shir Abdurazzaq rapporte, l'un d'entre eux met sa bouche sur son cou et il la mord ou il aspire et il dit, je fais sortir le djinn. Kadhabu wal'iyadu billah. Aussi menteurs qu'ils sont. Wallahul musta'an. Donc il se joue. Yani il joue avec al-ruqya. Il joue avec al-ruqya. Non pas en exposant les passions, mais en prétextant l'étude du Coran, la transmission du Coran et la guérison. Et ceci est plus dangereux et pire. Donc de tout cela on doit s'éloigner. D'autres personnes viennent avec al-ruqya mais de manière innovée. Naam. Il y a une période après que certains charlatans soient répandus, il y en a beaucoup questionné au sujet du captage. Naam. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? C'est quoi? Wakada, wakada. Éloigne-toi de la personne qui fait cela, qui dit cela, qui parle de cela. Est-ce que dans le hadith de Abu Saïd, on parle de captage? Dans quel hadith on parle de captage? Naam. Wallahu musta'an. Ou de travailler avec les djinns ou bien les shayatins, de tout cela, il faut s'éloigner. Ici, tu vas apprendre la ruqya shar'iyya et tu vas distinguer celui qui fait ruqya de manière légiférée de celui qui fait cela de manière innovée ou bien qui utilise du shirk wal'iyadu billah. Donc, ce sahabi est parti voir leur chef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récité Alhamdulillahi Rabbil Alamin et il a poustillonné sur lui et a crachoté sur lui. Et on a dit que Ruqya c'était quoi? La récitation et le fait de poustillonner. Comme on le voit ici dans ce hadith. Donc tu récites le Coran et tu fais comme cela sur la personne. Tu lui récites, tu poustillonnes sur lui, tu lui récites, tu poustillonnes sur lui, et tu fais ça le nombre de fois que tu voudras. Le compagnon, radiallahu anhu, crachotait sur lui et récitait Al-Fatiha. Il n'a pas ajouté à surat Al-Fatiha. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَارِ. Quel fut le résultat? Il nous dit, c'est comme un chameau qui était attaché au sol avec le cercle autour du genou à qui on avait retiré cela et qui s'est levé brusquement. Non, malade, alité, il ne pouvait pas marcher, il était très malade. Après al-ruqya, il s'est levé, non, en pleine possession de ses moyens. فَانْتَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَ. Il s'en est allé et il marchait. sans aucune peine. Et il marchait sans aucune peine. Qalaba, ay illa wa marad. Qalaba, c'est une maladie, on va dire. Par la suite, les compagnons se sont dit, partageons maintenant notre dû. Et celui qui a fait ruqya a pris plus de précautions et leur a dit, attendez. Il a eu un doute. Est-ce que ceci à qui de cette manière était licite ou pas? Il leur a donc demandé d'attendre jusqu'à leur retour pour exposer cette situation au prophète sallallahu alayhi wa sallam et entendre de lui. S'il nous dit qu'on garde cela, on le gardera. S'il nous dit de donner cela en sadaqa, on le fera. S'il nous dit de sacrifier cela, on le fera. S'il nous dit d'aller le rendre, on le fera. Et ainsi de suite. Et de cela, on tire une grande faïda. C'est que celui, « man kana fi nafsi shay, yastafsir min ahli al-ilm. Yanzur fi al-kitab wa sunna wa rji'i ila al-ulama. La taqaddam ala jahl, thumma yastafti. Qad akhta'a at-tariq. » On tire une grande faïda, c'est que celui qui a un doute dans la laïcité d'une chose, dans le caractère légiféré d'une chose, dans son jugement, qu'il prenne du recul, qu'il patiente et cherche une preuve dans le Coran et la Sunna, en revenant aux savants du Coran et de la Sunna. Ça ne suffit pas de dire yani j'ai fait un rêve, ou bien je le sens bien, ou bien c'est un signe, j'ai vu un tel, ou il m'est arrivé telle chose. Yarjumu bil ghaib. Non. Là, ça relève du domaine de l'invisible. Seul Allah Azza wa Jal connaît les choses de l'invisible et du futur. Donc toi, ce qui t'est demandé, c'est de revenir aux gens de science. Face à loi la dhikr in kuntum la ta'lam. Demandez aux gens du rappel, aux savants, si vous ne savez pas. Une deuxième faïda, c'est leur prédisposition à se soumettre au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois prononcé. Naam, une fois prononcé. Comme a dit ici le compagnon, فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا, afin qu'on regarde ce qu'il nous ordonnera. Est-ce que c'est juste pour savoir ce qu'il va ordonner ou bien c'est pour appliquer, se soumettre à l'ordre? Donc, le musulman yuwatti nafsahu ala al-istislam at-tam li amrillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le croyant doit prendre l'habitude de se soumettre pleinement aux ordres d'Allah et de son message. Et lorsque tu questionnes les savants, c'est pas pour entendre ce que tu cherches, ce que tu veux, mais c'est pour rechercher la vérité avec l'intention de l'appliquer. Pas comme ceux qui vont poser la question à une personne. Ensuite, cette réponse n'est pas celle qu'ils cherchaient. Alors il va voir une seconde personne, cette réponse n'était pas celle qu'il cherchait, alors il va voir une troisième personne, et il dit « Masha'Allah, ce chir, il est Masha'Allah. » Hein? Ou « Masha'Allah, ce prêcheur est Masha'Allah. » Naam, et je savais bien que lui, il était, et lui, il était. Subhanallah, si tu savais bien, pourquoi tu n'es pas parti le voir en premier? Tu es parti le voir parce que les deux premiers ne t'ont pas donné une réponse qui est en concordance avec tes passions. Jusqu'à avoir trouvé ce qui est en conformité, en concordance avec tes passions. Et c'est alors que tu l'acceptes? Non, ça c'est pas de la soumission. Ça c'est tibar al-hawa. Ça c'est le suivi des passions. Tu dois prendre ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est ce qu'Allah a légiféré pour toi. Donc lorsque tu questionnes, tu dois questionner avec l'intention d'appliquer. Pas juste demander pour demander. Tu poses des questions à ceux qui savent pour augmenter ta science, point final. Non, tu questionnes pour adorer Allah. Tu questionnes pour te rapprocher d'Allah. Tu questionnes pour ôter ton ignorance, pour appliquer et transmettre par la suite. Amma poser des questions pour poser des questions, ou discuter avec des gens de science pour discuter avec eux, ceci n'est pas la voie ma'adha authentique. Faqadimu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fadakarula. Lorsqu'ils sont entrés, ils ont exposé cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation. Et de cela, tu vois l'importance de revenir aux gens de science. L'importance de revenir aux gens de science lorsqu'il y a un problème et de leur exposer la situation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu:
وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ.
Comment as-tu su que c'était une ruqya? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Al-Fatiha comment? Ruqya. Donc on tire de ce hadith que Al-Fatiha, c'est une ruqya du verset qu'on a récité, que tout le Coran est une ruqya. Tout le Coran, de Al-Fatiha jusqu'à Nas, c'est une ruqya. Si ce n'est que la plus grande ruqya et la meilleure ruqya, c'est Surat Al-Fatiha. Surat Al-Fatiha. Mama Dirik, et kif araft? Mama Dirik, et kif araft? Comment as-tu su? Anna ruqya. هذا تأييد له وتصويب له. Quand le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ça, c'était pour montrer qu'il a bien agi et qu'effectivement الرقية الفاتحة est une رقية et qu'elle est même كافية, elle est même suffisante pour faire رقية et elle est شافية, c'est une guérison بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc celui qui fait رقية, نعم, s'il récite que الفاتحة et il part, est-ce qu'il n'aura pas accompli cette tâche avec sérieux, est-ce qu'il sera critiquable ou il aura fait une ruqya complète? Hein? Il aura fait une ruqya complète. Alors qu'il se peut que la personne qui a son enfant malade aille voir une personne qui lit le Coran, lui demande un ruqya, l'homme récite le Fatiha, puis il veut partir et ils lui disent, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas récité. Il dit, j'ai récité le Fatiha. Il dit, non, rajoute, c'est pas assez. Wakada wakada. Subhanallah. Al-ruqya. Ummul kitab. C'est la meilleure sourate qui a été révélée d'entre toutes les sourates du Coran et des autres livres précédents. Na'am, c'est la plus grande ruqya. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, partagez et donnez-moi une part. Ici encore, il appuie le compagnon dans son agissement et montre qu'il a bien agi au point de rire. Au point de rire. À la fin du hadith, on nous dit, فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Pour montrer qu'ils ont eu raison et qu'il est satisfait de leur agissement. Voici pour ce hadith. Le hadith suivant, ce hadith-là est rapporté par le Bukhari et le Muslim. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. ويقول إن أباكم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق خرجه البخاري. بعد أن علمنا المؤلف رحمه الله تعالى أن أعظم رقية سورة الفاتحة يرقي المرء نفسه أو غيره بها, هنا يهتم برقية الأولاد وبما ينبغي للآباء أن يقولوا لأبنائهم وأن يفعلوا بأبنائهم هذه المسؤولية العظيمة التي نسأل عنها يوم القيامة, وهي نعمة ومسؤولية فنسأل عنها وأمانة فنسأل عنها. Après avoir cité le premier hadith dans lequel on nous enseigne que la plus grande ruqya est al-Fatiha, on se la récite et qu'on poussionne, on crachote pour faire ruqya. Dans ce deuxième hadith, l'auteur nous enseigne, nous les parents, comment faire ruqya à nos enfants et que dire plus particulièrement lorsqu'il s'agit de faire ruqya à nos enfants ou à la perte ou à l'enfant de manière générale. Naam. Il convient d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour les enfants, en faveur des enfants. Et l'enfant est sujet. Non. L'enfant est sujet aux attaques des shayatines. Et l'enfant est faible. Et seul Allah Azza wa Jalla peut le protéger et le défendre. Car il n'a pas encore été, il ne connaît pas encore les invocations et les adhkar et les du'a al-muhassana et ainsi de suite. Donc ce sont les parents, mais ce sont les gens qui vont invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Un point que j'ai oublié de citer dans le hadith précédent, de ce hadith on tire la permission de faire ruqya même un kafir et que ça lui est profitable. Naam. La personne est convertie, elle dit mon père a telle chose, telle chose. Naam, est-ce que je peux le faire ruqya? Naam, je peux le faire ruqya. Et ça lui est profitable, bi'idhnillahi azza wa jal, car ماذا dans ce hadith, naam, dans ce hadith, il a fait ruqya à une personne qui en apparence n'est pas musulmane, comme on dit les ulama. Et les savants citaient même plus que cela, plus que les gens. Permission de faire ruqya, même si la personne ne fait pas partie de Ibn Adam. Donc certaines personnes lorsqu'elles voient leurs enfants, vous voyez leurs enfants touchés par un mal, elles ne savent pas comment se comporter. Parce qu'elles n'ont pas étudié. Elles ne sont pas venues dans les assises de science. Non. Elles n'ont pas grandi à la table du Coran et de la Sunna. Donc ils vont voir les marabouts et ainsi de suite. Et on leur donne des bracelets porte-bonheur. On leur donne des chaînes ou des morceaux de cuivre à mettre autour de la taille. Comme on a déjà vu. Ou des gris-gris avec des... je ne sais pas comment on appelle ça. Des coquillages. Non. Il y a toutes sortes de... d'arnaque, c'est le cas de le dire. Naam. Subhanallah. Al-Islam dinun kamilun shamilun lil khayr kulli. L'islam, c'est une religion complète et parfaite qui nous est venue avec tout le bien. Et l'islam nous enseigne que faire pour préserver nos enfants avant le problème, pendant le problème, après le problème, après la dissipation du problème. Et la meilleure chose que je puisse faire pour eux, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui peut préserver ta descendance. Et cette invocation, tu l'as fait pour tes enfants et pour les enfants des autres aussi. S'ils sont devant toi, tu fais du'a, alors qu'ils sont devant toi et tu leur fais ruqya et tu peux mettre ta main sur la personne, tu peux poussiner sur lui. Et si la personne est absente, tu peux faire du'a pour lui en son absence. Et ton enfant, par exemple, il est en voyage et tu fais du'a pour lui. Naam. U'idhuhu bi kalimatillah. Il veut dire u'idhuka. Mais on voit dans le hadith U'idhukuma. Pourquoi? Parce qu'ils sont de Al-Hassan ou Al-Hussein. Qui sont Al-Hassan ou Al-Hussein? Les enfants de Ali et Fatima. Donc les petits-enfants du prophète A.S.A.T.W.S.A.L.A.M. Le prophète A.S.A.T.W.S.A.L.A.M. leur faisait ruqya. Il invoquait Allah Azza wa Jal en leur faveur. Donc toi aussi tu invoques Allah Tabaraka wa Ta'ala pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour les enfants de tes amis, pour les enfants des gens de manière générale. Puis lorsque l'enfant grandit, tu lui apprends les adhkars. Tu lui dis qu'à revenir vers Allah, à demander la protection auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'il guérit d'un mal, tu lui dis c'est Allah qui t'a guéri. Et lorsqu'il est malade, tu lui dis on demande à Allah de te guérir parce que c'est Allah qui guérit. Tu l'éduques depuis son plus jeune âge sur cette aqidah sahiha, sur cette bonne croyance. Mais de par l'ignorance de beaucoup de gens, ils ont délaissé l'adhkar nabawiyya et sont tombés dans les bid'ah wa shirkiyat. Mais de par l'ignorance qui s'est répandue, de par le prêche des gens du faux et de par le peu de prêcheurs de gens de la vérité, puis de leurs efforts pour certains, et voici la situation. Comme dit Cheikh Salah Al-Fawzan, les gens du faux sont motivés dans la propagation du batil, du faux, ils s'entraident dans le faux. Et les gens du haq, déjà ils sont peu. Non. Et avec cela, beaucoup ne sont pas motivés, ni organisés. Et certains d'entre eux s'occupent de nuire aux gens du haq. Naam. Donc, ils sont peu. Certains d'entre eux ne sont pas motivés dans le haq, ou bien dans la propagation du haq. Il est sur le haq. Mais, la yad'u, il ne fait pas de da'wah, il ne transmet pas, il n'enseigne pas. Alors qu'il a appris. Je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas appris, qui transmettent le faux parce qu'ils n'ont pas appris, donc ils se trompent tout le temps et ils égarent les gens. Je ne te parle pas de ce sinfeu-là. Je te parle de ceux qui ont étudié, qui connaissent, mais qui n'ont pas la motivation, mais qui n'ont pas l'importance, accorder d'importance à cela. Puis il y a ceux qui font da'wah, mais qui se préoccupent de nuire à ceux qui font da'wah parmi les gens du haq. Donc tout cela entre dans dans les problèmes. Wallahu al-musta'an. Donc la personne, elle se doit d'enseigner al-ruqya shar'iyya à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éradiquer al-shirkiyat wal-bid'a, pour éradiquer le polythéisme, pour éradiquer les innovations dans ce domaine et ô combien elles sont nombreuses, malheureusement. Certaines personnes sont sur la vérité, mais lors de la difficulté, ne se montrent pas endurantes. Lors de la difficulté, ne se montre pas endurante. Et on recourt aux mauvaises choses. Certaines personnes, et j'étais questionné sur cela il y a peu, dans les pays du Maghreb, prennent de la craie ou de la pierre et ils effritent cela, mélangent cela avec des graines de fenugrec, certaines herbes. Puis ils utilisent cela pour faire de l'encens. Et ils disent que ça soigne du mauvais œil. Et que ça repousse les shayatines et les djinns et ainsi. Tout ça, c'est du shirk. Non ? جَعْلُ مَا لَيْسَ بِسَبَبٍ سَبَبًا الْأَصَنَّ وَشِرْكٌ أَصَرٌ. Le fait de prendre en tant que cause une chose qui n'y a été légiférée par les textes, n'y a été prouvée par التَجْرُبَة. Comment est-ce qu'on va dire التَجْرُبَة en français ? L'expérience. Non ? C'est du shirk asra. Celui qui dit par exemple, mettre un bracelet de cuivre, mettre un bracelet en fer, c'est bon pour la peau et ça repousse les shayatines, comme certains font. Naam. Subhanallah. Lorsque tu allais à l'école, naam, tu voyais sur le poignet, hein, des, yani, plus des trois quarts des Africains, des Maghrébins, quelque chose. Subhanallah. Et lorsqu'il oubliait son bracelet à la maison, il disait, j'ai oublié mon bracelet, il rentrait chez lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et si ses parents le voyaient sur son bracelet, où est ton bracelet? Attention, il va t'arriver telle chose, il va t'arriver telle chose. Et on a beaucoup de jaloux dans la famille. Et. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amma al-muwahhid tarabba ala ma'idati al-kitab wa sunnah. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sidqi al-luju ila Allah tabaraka wa ta'ala. Quant au monothéiste, alhamdulillah, monothéiste, na'am, celui-ci a grandi avec le Coran, avec la sunna, et sur ses poignets, tu ne vois rien, si ce n'est une montre. Hein? Tu ne vois rien si c'est une montre. Quant au bracelet porte-bonheur, ou porte-malheur pour, en vrai, ou les bagues avec des, comment est-ce qu'on appelle ça, des chevalières, et dedans, ils introduisent des écritures. Na'am, l'un d'entre eux dit, il est invincible. Et si tu tentes de le transpercer avec une lance, hein, tu ne peux pas ni le blesser, ni lui faire un mal. Pourquoi? Parce qu'il est parti voir le grand marabout Fulan ibn Fulan, et il lui a donné cette bague. Alors, il est imbattable. À la lutte, il est imbattable. À la course, il est imbattable. Dans ça, il est imbattable. Dans le haram, il est imbattable. Dans le haram, il est imbattable. Naam. Hada batil, hadi aqaid batila. Ça, c'est des mauvaises croyances. Délaissons tout cela et revenons à ce sur quoi nous a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que je vous cite, c'est des choses que j'ai entendues directement, j'ai vu directement. Naam. On voit sur les hanches, la taille des enfants, des shirkiyat, les poignets des enfants, des shirkiyat, même des adultes, ils viennent avec leur bracelet. Enlève ton bracelet. Après, il dit, non, mais c'est pour décorer, mais il est même pas beau, le bracelet. C'est pas pour décorer. C'est parce que tu as été éduqué sur cette aqida batila. Naam. La plupart d'entre nous, on a vu cela, ou on a grandi avec cela. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, certains depuis tout petit ont détesté cela. Comme Ibrahim alayhi salam a détesté cela depuis son plus jeune âge. Naam. Avant même d'avoir reçu la révélation, il détestait shirk sous toutes ses formes. Donc, si toi, l'enfant, t'as mis cela, enlève-le. Et lorsque tes parents disent, yani, remets-le, attention, tu leur dis, mais n'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui a créé ce cuivre ou ce fer? C'est Allah Azza wa Jal qui va me protéger. Et alhamdulillah, le voisin, il ne met pas cela. Et il n'est pas malade. Et il parle, il leur enseigne. Puis, plus tard, inshallah, lorsqu'il aura l'âge, il va leur expliquer avec le Coran et avec la Sunna. Mais il ne met pas ces choses-là. Naam, si les parents n'acceptent pas, il va voir l'imam et il lui demande de parler à ses parents. Wa hakala, inshallah, tantashiru al-tawhid wa sunnah. Et c'est ainsi que le monothéisme pur, ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, se propagera. Que faire pour préserver nos enfants? Ici, le prophète alayhi salatu wassalam demandait protection pour Al-Hassan et Al-Hussein en disant, U'idukuma, je vous place sous la protection, bi kalimatillah, des paroles d'Allah, at-tamma, parfaite. Parfaite. U'idukuma, je vous place tous, vous deux, parce qu'ils étaient deux, Al-Hassan et Al-Hussein. Si tu fais cette dua pour un garçon, U'idhuka. Si tu fais cette dua pour une fille, U'idhuki. Si tu fais cette dua pour deux personnes, U'idhukuma. Pour deux garçons, U'idhukuma. Pour deux filles, U'idhukuma. Pour un garçon et une fille, U'idhukuma. Pour plusieurs, U'idhukum. Donc tu adaptes le damir au nombre. Naam. Et encore une fois, on voit ici l'importance de la langue arabe. Même dans les adhkars. Naam. Donc, tu invoques Allah Azza wa Jal en leur faveur. En ces termes, selon la traduction, je vous place sous la protection des paroles parfaites d'Allah. Min kulli shaytanin wa hamma. Contre tout diable wa hamma. Yani des bêtes féroces ou bien des bêtes nuisibles. Wa min kulli aynin lamma. Et contre tout mauvais œil. Et contre tout mauvais œil. Wa al-ayn haqq. Et comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani le mauvais œil c'est une réalité, c'est pas de l'illusion ou autre. Al-ayn c'est une réalité. Wa kalimatullah at-tamma, les paroles parfaites d'Allah dans ce hadith. Certains savants ont dit hiya al-Qur'an, c'est le Coran. Et d'autres ont dit kalimatullah at-tamma ay al-kawniyya al-qadariyya. D'autres ont dit ce sont les paroles d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les paroles universelles. Naam, les paroles universelles. Comme Allah nous dit dans le Coran, « Nama amru idha arada shay'an an yakul al-hukun fayakul » Les paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ce par quoi il décrète. Ou bien les paroles universelles, on va traduire de la sorte. « Min kulli shaytanin wa ham » Ham, contre tout shaytan. Naam, ce sens-là est compris. « Wa hamma » Al-hasharat al-mu'diya. Hamma, c'est quoi? Ce sont yani les animaux nuisibles parmi les choses de la terre. Naam. Comment est-ce qu'on va dire ça? Hasharat. Les insectes et ce genre de bêtes. Naam. Comme les serpents. Comme les scorpions. Et les choses semblables. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de protéger l'enfant contre tout démon, contre tout diable. Et contre toute bête semblable aux serpents, scorpions, ainsi de suite. Puis tu ajoutes, wa min kulli aynin lamma, contre tout mauvais œil qui fait du mal. C'est pas tout aïn, c'est pas tout œil, tout regard qui te nuit, naam, et qui te touche d'un mal. Mais l'homme ou la femme, volontairement ou involontairement, peut frapper celui qu'elle regarde, de celui qu'il regarde, par un mauvais œil. D'une chose comprise dans son nafs, il se peut qu'il y ait une jalousie dans son cœur, il se peut qu'il y ait une mauvaise chose dans son cœur. Et en voyant une belle chose, naam, en voyant une belle chose, il la touche du aïn, du mauvais œil. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, tout comme il nous dit l'aïn haqq, le mauvais œil existe, c'est une réalité, il nous dit, yani, celui qui voit une chose qui lui plaît, qu'il dise Allahumma barik, qu'il dise Allahumma barik, ou bien barak Allahu fik. Est-ce que c'est compris? Celui qui voit une chose qui lui plaît, une belle chose, il voit un enfant, une naissance, un travail obtenu, une richesse, une beauté, et ainsi de suite, il dit quoi? Immédiatement yubarik, pour couper court au mauvais œil. Il demande à Allah de bénir cette chose-là, de bénir cette personne-là, de bénir les biens de cette personne, ça coupe, ça casse le mauvais œil. Et l'aïn, le mauvais œil, peut toucher la personne et la rendre malade. Peut toucher la personne et la rendre malade au point où elle meurt. Au point qu'elle meurt. Iyadan billah. Et ça vient la plupart du temps du hasid, du jaloux. Naam, ça vient la plupart du temps du jaloux. Il se voit plus à même de recevoir le bienfait d'Allah. Et il n'est pas d'accord avec le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa répartition des biens. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a orienté vers ad-du'a. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a justifié, expliqué cela. Et de cela on tire une belle faïda. C'est que lorsque tu enseignes aux enfants, cite-leur la cause. Par exemple, tu dis « Ya Bounaï, kul bil yamin. » Oh mon fils, mange avec la main droite. « Ya Bounaï, yati, kul bi yaminik. » »« Kuli bi yaminik. » Oh ma fille, kuli, mange avec ta main droite. Tu as fait ton obligation. Mais meilleur que cela, serait de dire quoi? Oh mon fils, oh ma fille, mange avec la main droite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour un enfant qui mangeait dans le plat et sa main tourné dans le plat, il lui a dit, Aroulam kul biyaminik, ou sammillah kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Oh jeune homme, Dis bismillah lorsque tu manges, mange avec ta main droite et mange de ce qu'il y a devant toi. Donc tu rattaches l'ordre à l'histoire de l'ordre, ou de l'action, ou de la parole. Tu lui expliques cela. Afin que l'enfant grandisse, en plus de la soumission et de l'obéissance, avec la connaissance et avec la sagesse de ce qu'il fait, ce sera plus prompt à ce qu'il soit endurant dans sa mise en pratique. Donc ici, il s'adresse à Al-Hassan et Al-Hussein, et c'est valable pour l'ensemble des enfants. Puis il dit au prophète, il leur dit, votre père, demandait ainsi la protection pour Ismaïl et Ishaq. À qui s'adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici? Al-Hassan et Al-Hussein. Puis il leur dit, certes, votre père. C'est qui le père de Al-Hassan et Al-Hussein? C'est Ali ibn Abi Talib. D'accord. Et ici, il dit, votre père faisait cela pour Ismaïl et Ishaq. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le hadith? Non. Il n'y a pas de contradiction dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, car le tout vient d'Allah. Donc, comment expliquer cela? Indaman. Naam. Il fait référence à Ibrahim. Est-ce qu'Ibrahim est le père de Al-Hassan al-Hussein? Du fait que c'est un de ses grands-parents, naam, ils font partie de sa descendance, c'est un père. Parce que le père, c'est le père, et ceux qui sont au-dessus de lui, le grand-père, l'arrière-grand-père, wa in alaw, on les appelle les pères. Comme dans Surat Yusuf, wa taba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Yusuf alayhi salam, qui est son père? Yaqub. Pourtant, il dit, j'ai suivi la voie de mes pères. Qui? Il cite les fils de Ibrahim. Alors que les fils d'Ibrahim, sont-ils les pères de Yusuf ou les grands-pères de Yusuf? Les grands-pères. Ishaq, c'est le père de Yaqub. Et Ibrahim est le père de Ishaq. Naam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a eu son enfant de Maria, comment est-ce qu'il l'a appelé? Ibrahim. Et il a dit, Wulida lil layla, Rulamun fa asmaytu mithl bismi abi Ibrahim. J'ai eu un enfant cette nuit, je l'ai appelé comme mon père Ibrahim. Comment se nomme le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abdullah. Son grand-père. Abdul Muttalib. Alors, pourquoi est-ce qu'il a dit de Ibrahim que c'est son père? Parce qu'il fait partie de sa descendance. هذا مفهوم إن شاء الله تعالى فهذا أسلوب تربوي ناجح إن شاء الله تعالى donc voici une belle éducation qui porte ses fruits par la permission d'Allah سبحانه وتعالى خرجه البخاري et ce hadith est rapporté par l'imam البخاري est-ce que vous voulez qu'on continue ou bien on finit ce chapitre la semaine prochaine, Inch'Allah. Hein? Ma ra'ikum? Ma ra'ikum, ammi? Nantahi l'an, thumma nwasib al-la... Ma zel le waqt? Ma ra'ikallah fik. Anta sheikhuna, wa anta aqwa min al-shabab. Ma ra'ikallah fik. On continue ou bien on s'arrête, les jeunes vieux. Hein? Au cours d'arabe, un frère est venu me voir, il m'a dit, moi la dernière fois quand t'as dit on continue ou bien on arrête, je voulais dire qu'on arrête, mais comme personne l'a dit, j'ai eu honte. Hein? Et je l'ai rassuré, je lui ai dit, la plupart ou beaucoup parmi ceux qui n'ont pas parlé, ils pensent exactement comme toi, mais ils ne veulent pas être les premiers à le dire car ils savent que quelqu'un d'autre va le dire. Non? Et si vous n'êtes pas fatigué, moi je suis fatigué, alors je vais m'arrêter. Wa sallillahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ruqya donc, lorsque tu veux faire ruqya à quelqu'un, ou te faire ruqya à toi-même, tu dis a'udhu billahi minash shaitani rajim. C'est une bonne chose d'avoir al-wudu, en pleine position de tes moyens, une des forces du mu'min, c'est al-wudu, tahara. Sauf pour la personne qui est indisposée. Et tu récites Al-Fatiha. C'est la mère ruqya. Tu récites ensuite ce que tu veux du Qur'an, Al-Fatiha, tu la récites plusieurs fois si tu veux. aussi tu poussillonnes et tu crachotes sur ta personne ou la personne en faisant comme ça. Ni tu craches, ni tu fais sortir que de l'air entre les deux. Naam, peut-être qu'il y a un terme plus adéquat. Hakada, naam ammi. Al-Fatiha ammi, tu la récites une fois si tu veux, et si tu veux, tu la récites deux fois, et si tu veux, trois fois, si tu veux plus encore. D'accord ? أطال الله في عمرك على التوحيد وعلى السنة بارك الله فيك وماذا بارك الله فيكم on positionne sur la personne et on crachote sur la personne ou sur sa propre personne. Naam. Aussi il y a des adhkar nabawiyah comme on le verra la semaine prochaine inshallah ta'ala. Et le mieux c'est de te faire ruqya toi-même, mais s'il y a un réel besoin, il n'y a pas de mal à demander ruqya à une tierce personne. Naam. Parmi les gens de la bonne aqida et qui connaissent al-raqiyah. Mais toi, tu es dans une situation de difficulté. Et Allah nous dit dans le Coran, Amma yujibu al-muttarra idha da'a. Qu'est-ce qui répond à la situation de celui qui est en détresse lorsqu'il l'invoque? Donc tu réunis des causes d'exaucement. Comment est-ce qu'on dit? D'exaucement. Naam. D'invocation. Alors demande-toi-même. Demande-toi-même. Et comme on le verra, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Parfois il faisait ruqya et parfois il lui apprenait à faire ruqya. Donc, al-da'i ou al-alim yunawwi'. Des fois il fait ruqya et des fois il apprend aux gens à faire ruqya. Naam. Et tous autant que nous sommes ici, toute personne peut faire ruqya. Naam. Et je vous informe. Naam. Wa yuballigh al-shahid al-ghaib que moi je ne fais pas ruqya aux gens. Naam. Et je vous préviens. Naam. Moi je ne fais pas ruqya, yani pas plus que vous. Je ne fais pas ruqya plus que vous aux gens. Donc inutile de venir me voir pour aller faire ruqya à un tel, puis un tel, puis un tel, puis un tel. Naam. Deuxièmement, lorsque tu demandes ruqya à quelqu'un, c'est bien de choisir quelqu'un de pieux. Naam, c'est bien de choisir quelqu'un de pieux, quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal, et ainsi de suite. Wadih, barakallahu fikum. Naam, est-ce qu'il y a un point que j'ai omis de citer? Pour connaître quelqu'un de pieux, At-taqi, celui qui est pieux, c'est celui qui connaît Allah, qui l'adore seul dans le culte sincère en suivant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois sur lui le Coran wa sunna. Naam. Tu vois sur lui le Coran wa sunna. Il prend l'ilm nafi' et il met en pratique l'amal salih. Il est à la sunna. Il marche à la sunna. يجالس أهل السنة نعم يتقيد بسنة يقول بسنة ويسكت عن بصيرة واضح هكذا يدعو إلى إفراد الله بالعبادة يدعو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك والبدعة يعلق الناس برب الناس لا بنفسه il appelle les gens à rattacher leur cœur à Allah, pas à lui. Pas à lui. Wadah? Naam. Wa taqra al-Qur'an, tu trouves les sifat ma'adha des gens pieux. C'est sur ceux qui ont foi aux choses du rayon, ils font la prière, ils sortent la zakat, ils préservent leur prière, wa hakadha. Et la femme, elle se fait ruqya elle-même. Elle fait ruqya à sa sœur, fillah. Elle fait ruqya à ses parents. Fait ruqya à son frère, wahakada. L'homme fait ruqya, la femme fait ruqya, wahakada. Naam, donc tranquille, reposez-vous. Ne voyagez plus vers tel raqi, vers telle personne, vers telle personne. Naam. Rappelez-moi de vous citer l'histoire d'Ibn Taymiyyah lorsqu'il a fait ruqya à une personne et que le djinn a dit qu'il sort par respect pour Ibn Taymiyyah. Et quelle fut sa réponse? وفي هذا القدر كفاية وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فإنك أنت القوي العزيز المتين اللهم ارحم ضعفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Et c'est pas pour cela que j'ai fait ce cours-là, c'est la suite du livre. Mais chez Michel Yudkar, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas être apeuré, mais il faut s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est les voisines de cette femme. Quant à cette femme, on lui recommande la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'endurance, et de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter le décret d'Allah sur elle. Et de faire les causes pour se soigner en se faisant ruqya. Aussi, la personne qui est malade ne vient pas à la mosquée seule. La personne qui est malade ne vient pas à la mosquée seule, particulièrement une femme. Parce que qui est-ce qui va s'occuper d'elle après Allah subhanahu wa ta'ala si elle fait une crise? Et si les gens paniquent, il se peut qu'un homme soit contraint de passer du côté des femmes. Il se peut que les femmes n'aient pas la force physique ou bien la maîtrise de la situation. Non. Donc elle vient accompagner. Comme ça, s'il se produit quelque chose, cette femme la prend en charge et la fait sortir. Non. Et la fait sortir. Et elle sait d'elle-même qu'elle ne peut patienter. Non. Alors qu'elle questionne une personne de science, est-ce que c'est sage de sa part de venir non, altérer le silence de la khutbah et l'écoute de la khutbah? Allahu a'lam. Non, mais c'est une question à soumettre aux gens de science. Et certaines ont été occupées de cela au point de ne pas avoir prié la salat du Jumu'ah, parce qu'ils s'occupaient d'elles. Non. Et ces gens-là qui, on leur dit de faire salat al Jumu'ah, deux raka'ah. Mais dans le cas où ils n'ont pas pu prier pour une raison ou une autre, non, ils ont posé la question et la réponse est qu'ils doivent prier arba'a raka'at dhuhran. Ils doivent prier arba'a raka'at dhuhran. Ils doivent prier 4 raka'at. S'ils ont raté le Jumu'ah et ils n'ont pas eu ne serait-ce qu'une raka'at du Jumu'ah, ils n'ont pas atteint le recours de la deuxième raka'at avec l'imam, alors ils ont raté le Jumu'ah. Ils ont raté le Jumu'ah, ils doivent prier 4. Ils doivent prier 4 raka'at, ils prient le Dhuhr. Wadah? Barakallahu fikum. Non.